LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Je vais vous montrer le scanner si vous voulez venir voir. Là, c'est un scanner thoracique. On voit le poumon droit, le poumon gauche. On est coupé en tranches là. Ici, c'est la bronche gauche, la bronche droite. On est au niveau de la trachée. Là, c'est l'aorte thoracique ascendante, l'artère pulmonaire. Et juste en dessous, on a le cœur. Voilà le cœur avec les ventricules. Et puis ici, on voit une espèce de boule. Je ne sais pas si vous voyez tout le fond. C'est le thymome, c'est la fameuse tumeur. Là, c'est une grosse veine qui est ici. Voilà. Et notre métier, donc c'est un cancer. Hein. C'est un cancer qui est peu agressif, mais c'est un cancer. Donc là, on a une marge de sécurité, donc on va pouvoir passer au robot et enlever la boule. Quoi. En gros, c'est ça notre métier, c'est enlever ce cancer. Et il faut qu'on ait une marge saine et qu'on enlève tout. Donc j'essaye en robot, mais si je vois que je prends un risque carcinologique, j'arrêterai le robot et j'ouvrirai. Allô ? Oui, Bertrand Latour, bonjour. Oui. Sabrina, de la part de Mathieu.
Merci, monsieur.
Alors, on y va. On va pour installation. On va baisser la table, s'il vous plaît.
Allez-y.
Ouais, c'est bon, comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bien. Très bien, impeccable, comme ça. C'est
pas...
Et on remonte un peu la table. Ok. Bon, mais c'est bien, on y va. C'est bien.
Ce qui est important, ce n'est pas si c'est moins bien pour le chirurgien ou pour le ressenti du chirurgien ou comment il le vit. Si, c'est important, mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est est-ce que c'est mieux pour le malade ? C'est la seule question à se poser. Et c'est à la science d'y répondre. Est-ce que dans les études, la chirurgie robotique fait aussi bien que la chirurgie ouverte ? Oui ou non ? Est-ce que les durées de séjour sont plus courtes ? Est-ce qu'il y a moins de douleurs ? Est-ce que les gens reprennent plus vite le travail ? C'est ça la vraie question. Et tant pis si le chirurgien trouve ça moins sympa sur le plan technique et pratique. La chirurgie n'est pas faite pour faire plaisir aux chirurgiens. Elle est faite pour être utile aux malades.
La robotisation du chirurgien. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier.
Donc l'enjeu de l'opération ce matin, c'est d'enlever le thymome en étant mini-invasif pour que le patient puisse sortir demain ou après-demain, rapidement, et bien cicatrisé. Si on n'y arrive pas, on ouvrira le thorax, et dans ce cas-là, on le gardera 5 jours hospitalisé, et il aura 1 ou 2 mois de fatigue en plus.
Bertrand de la Tour, chirurgien thoracique, CHU de Rennes.
Le match, parce que c'est un match qu'on fait, il faut enlever la maladie pour que le patient soit vivant dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quoi. Alors pourquoi le choix du robot ? Le robot permet de faire des incisions qui font 8 mm, donc toutes petites, on est dans le mini-invasif. Au lieu de faire une cicatrice qui fait 35 à 40 cm, et au lieu de scier un os, au lieu d'écarter des côtes, là on fait juste des petits orifices qui font 8 mm entre les côtes. On crée moins d'inflammation, moins de douleur et moins de mutilation pour le patient. Le bistouri, c'est une mutilation pour un bénéfice, mais c'est une forme de mutilation. Et plus la mutilation est petite en pouvant soigner les gens, plus il y a un bénéfice pour le patient. Et puis, il y a un bénéfice indirect pour la structure. Ça nous coûte moins cher. Et puis, les gens s'en remettent mieux. Et puis, s'ils travaillent, ils peuvent prendre le travail plus rapidement. Il y a un bénéfice aussi indirect. Quoi.
Jacques Maresco, IRCAD, Centre de formation en chirurgie mini-invasive, Strasbourg.
Ben là, c'est un espace où on a 20... C'est une plateforme où vous avez 20 systèmes extrêmement sophistiqués de chirurgie mini-invasive, donc laparoscopique. Donc, on a... Cette plateforme ici, qui est surtout utilisée sur simulateur, sur exercice. On a ensuite 3 autres plateformes de robotique aussi. Donc, ce qui fait qu'on a 4 plateformes pour apprendre les nouvelles technologies au fur et à mesure. Et on verra très rapidement tout à l'heure, vous avez des robots aussi adaptés pour la neurochirurgie, des robots adaptés pour mettre des vis dans la colonne vertébrale, etc. Et donc, toute spécialité maintenant développe ce qu'on appelle le concept de chirurgie mini-invasive. Donc en gros, l'évolution de la chirurgie, elle est née en France. Et on doit être quand même assez fiers de ça. Elle est née en fait à Lyon par un chirurgien qui s'appelle Mouret. C'était en 1987. Et les Américains ont appelé ça la seconde French Revolution, pour vous montrer l'importance de ça. Et cette chirurgie, en fait, qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, pour toutes les spécialités, hein, qui a commencé par la chirurgie digestive, ensuite gynécologique, ensuite urologique, vasculaire, maintenant tout, y compris la neurochirurgie, on pourra en parler. Donc ça vise à avoir le moins d'agressivité possible sur le malade. Et la moindre activité, ça veut dire que déjà, il faut le moins de cicatrices possible. Il y a eu une évolution, donc au début, à partir de 1988, où ça a commencé, ça a été ce qu'on appelait en français, on disait chirurgie cœlioscopique, après on appelle ça plutôt chirurgie laparoscopique. Et c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire comment, en fait, au lieu de faire une grande incision pour aller opérer le tube digestif, par exemple, n'importe quel organe, bien on a fait des petits trous. Et le tout premier, c'était d'ailleurs un gynécologue qui mettait ce qu'on appelle un trocar, donc une espèce de conduit comme un canal. Mais à l'époque, il n'y avait pas de caméra, donc il regardait à l'intérieur. On appelait ça d'ailleurs la chirurgie par un trou de serrure. Puis tout d'un coup, il y a eu l'évolution de la caméra. Et ça a été génial, puisque les caméras, on va voir la qualité, elles sont passées des caméras, ce qu'on appelle monochip, c'était quasiment du noir et blanc. Ensuite, ça a été des trichip, c'était beaucoup mieux. Ensuite, il y a eu la haute définition. Ensuite, il y a eu le 4K. Maintenant, il va y avoir le 8K. Pour vos yeux, c'est quelque chose de génial, puisque vous avez une magnification de l'image. Donc ça, c'est déjà la première chose très importante. La deuxième chose, ça ne peut plus saigner, puisque comme vous mettez la caméra dans un tube, si jamais il y a du sang au bout de la caméra, ben, vous ne voyez plus rien. Donc ça a transformé la chirurgie, notamment la chirurgie du cancer, où on sait que quand on a des hémorragies, ça vous fait des épisodes, des périodes d'immunodépression provisoire, donc ce qui est très mauvais, bien sûr, pour la maladie. Et puis, il y avait bien sûr l'absence de douleur post-opératoire. Et l'histoire, elle est assez drôle, puisque Mouret raconte qu'en fait, la première malade qu'il a opérée, il l'opérait pour un problème gynécologique, je ne sais plus si c'était un kyste de l'ovaire ou quelque chose, et comme elle avait aussi des calculs dans la vésicule biliaire, il a juste retourné en fait l'optique pour enlever la vésicule biliaire. Et tout d'un coup, dans le couloir, le soir, quand il a passé ce qu'on appelle sa visite, il voit une malade, il lui dit « Ah ben, je suis très content de vous opérer demain. » Et la malade lui dit « Mais non, « Docteur, vous m'avez opéré ce matin. » C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer, il y a 30 ans, un malade qui était opéré même d'une vésicule biliaire, il était au lit au moins pendant 24-48 heures, avec une grande incision, avec des douleurs, avec des antalgiques. Donc ça a été la révolution. C'est ce qu'on appelle la cœlioscopie, ou plutôt maintenant la laparoscopie, ou ce qu'on peut appeler maintenant aussi la chirurgie vidéo-assistée. La révolution, elle est là, elle est cette espèce de non-limite de l'esprit chirurgical qui à chaque fois a essayé d'être de moins en moins invasif.
Donc la cœlioscopie chirurgicale a commencé d'une part avec les gynécologues et d'autre part avec Mouret qui a été considéré par l'Académie de chirurgie comme un assassin. Hein.
Marie-Christine Pouchel.
Ça a été vraiment, il a très très chèrement payé. Et là, ça renvoie à la question de l'innovation aussi. Alors, bien sûr, c'est une révolution parce que c'est aussi un des grands fantasmes de pouvoir aller voir en direct. Et les premières cœlioscopies chirurgicales faites par Mouret, c'était de la vision directe. Et puis après, on va travailler avec des instruments qui sont très petits, qui sont miniaturisés. Donc, on fait des petits trous. Mais pour le développement de la cœlioscopie chirurgicale, ça a été un désavantage parce que dans les idées des chirurgiens, c'est que le grand chirurgien, c'est celui qui fait une grande ouverture.
Initialement, le chirurgien voyait directement ce qu'il faisait.
Alain-Charles Masquelet.
Et puis avec les progrès, on a introduit les caméras aussi dans les cavités. Et à ce moment-là, au lieu de voir exactement la lésion et de voir ce qu'il faisait, le chirurgien regarde l'image qui lui est transmise. Donc on finit par penser qu'il y a une mise à distance du corps progressive par le biais de l'endoscopie et qui fait que... À un moment donné, le chirurgien n'opère plus qu'une image, ce qui est quand même assez regrettable. D'ailleurs, il ne regarde plus le patient, il regarde le poste de télévision, en quelque sorte.
Vous êtes en forme, monsieur l'assistant? Walid, ouais. Ça va?
Oui.
Nadine, ça va? Pas de souci, on est content d'être là. Très bien. Voilà, peut-on inciser?
Oui.
Donc on fait une incision de 8 mm, petite. On va passer entre les côtes. Voilà, donc on fait le planté de bâton, on met les trocars. C'est des petits trocars qui font 8 mm. C'est un acte subversif, mais pour le bénéfice du patient. On voit le poumon qui se dégonfle. Hein. Le patient ne respire plus sur le poumon gauche. On voit la tumeur, c'est la grosse boule qui est collée sur le cœur. On va docker le robot. On va faire un amarrage du robot. Sabrina, c'est vous qui pilotez alors. Hein. Alors on y va. fais l'amarrage du robot. Allez-y, allez-y, encore. Encore, 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 encore. Voilà, c'est bien, c'est bien.
Je ravance un peu vers vous, c'est bon ?
C'est bon, c'est bon.
Okay.
La chirurgie mini-invasive, ce qu'on appelle en France celioscopique et abandonnée, qu'on appelle chirurgie laparoscopique, ça c'est français, ça c'est Mouret, c'est à Lyon, ça c'est clair. La robotique, par contre, elle est américaine. Ça a été un développement avec des centaines de millions de dollars de l'armée américaine, où les sénateurs américains étaient persuadés, enfin le Congrès a donné des centaines de millions de dollars en étant persuadés que c'était le seul moyen de pouvoir opérer à distance les GI quand ils étaient en milieu de guerre. On s'est aperçu très rapidement que c'était quand même difficile. Et donc ensuite, il y a eu la transformation grâce à une association des fonds en fait, de l'armée américaine et de l'université de Stanford. Et donc, ils ont transformé le robot pour permettre le robot en chirurgie mini-invasive. Et donc, l'invention du robot chirurgical, elle est américaine. Ça, c'est une chose certaine.
Ça a été un fantasme, dans un premier temps, des armées. Parce que vous vous souvenez de MASH, hein, Medical Advanced Surgical Hospital. Et dans les années 95, les Américains, l'US Army, avaient imaginé de faire opérer les soldats blessés au front par un robot dans un véhicule spécial qui s'appelait le Medfort, Medical Forward Team. Et en fait, ça marche pas. Et il y a eu une tentative en France, c'était de pouvoir installer un robot sur le Charles de Gaulle, un robot chirurgical. Et puis finalement, ça a été un échec. On s'est aperçu qu'il fallait quelqu'un dans le bateau pour pouvoir procéder aux gestes d'urgence, ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire faire ce qui est absolument nécessaire, et puis après l'évacuation sanitaire, évidemment. Donc on est largement revenu dans le domaine militaire du robot sur lequel on avait fondé de grands espoirs. Alors, c'est un petit peu pareil en pratique civile. Encore que ça a gagné beaucoup, il y en a à peu près 4 ou 5 000 dans le monde, dont les deux tiers sont aux États-Unis. En France, on en compte à peu près 150. Il faut quand même connaître le coût d'un robot. Le coût d'un robot, c'est pas négligeable. C'est 2 millions d'euros. Bon, le bas de gamme, hein. Et puis, il faut la maintenance. Donc, la maintenance, c'est 200 000 euros par an. Bref, on a calculé que pour amortir un robot, il fallait 150 opérations par an. 150 opérations, c'est une tous les deux jours.
Si on parle sur le plan chirurgical, sur le plan scientifique, je pense que la France se place au premier plan. C'est-à-dire que le nombre de premières interventions qui ont été faites, le développement de la chirurgie mini-invasive, elle est française, aucun pays n'y croyait au début. Par contre, le transfert de technologie a été très mauvais, puisque le seul pays en Europe qui a développé énormément la chirurgie mini-invasive au point de vue instrumentation, caméra, système, c'est l'Allemagne. Et le reste, c'est l'Asie et les États-Unis.
Et on en est où aujourd'hui en France à peu près de ces équipements ?
Alors des équipements, je pense que la majorité des hôpitaux universitaires, si ce n'est tous d'ailleurs, mais je sais pas exactement, sont équipés de robots, ça c'est une évidence. La majorité des gros hôpitaux et des cliniques privées sont équipés de systèmes de reconstruction en trois dimensions des malades. Donc il y a une diffusion qui est importante. Donc si vous voulez parler du niveau de la France dans les technologies, même si tout le monde parle des catastrophes dans les hôpitaux parce qu'il n'y a plus d'argent, etc., bon, c'est quand même un des meilleurs système au monde de prise en charge des malades, où sans payer un centime, vous pouvez être opéré par le meilleur des professeurs avec la plus grande des technologies, technologies de pointe.
Il n'y a pas d'image, c'est que du son.
Okay,
c'est pour ça qu'on a l'autorisation.
Okay, d'accord.
You speak French or
No.
Hello. Donc ici, on est sur l'une des plateformes robotiques. En fait, on a 1, 2, 3, 4 plateformes robotiques. On est le centre au monde avec le plus de robots, puisque à la fin de l'année, on va avoir à peu près 32 robots chirurgicaux, ce qui est quelque chose d'incroyable. Et c'est surtout aussi ce qui fait comprendre l'intérêt dans un centre académique d'un partenariat avec un industriel. Parce que quand vous faites le calcul, il y a pour 70 millions d'euros de robots qui doivent être changés tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il y a pour l'instant en robots chirurgicaux pour cette chirurgie dite abdominopelvienne, c'est-à-dire digestive, mais aussi thoracique, urologique, gynécologique, vous avez 6500 robots dans le monde. Vous avez des centaines de milliers de blocs opératoires dans le monde. Donc ça veut dire que la robotique, pour l'instant, elle est en train d'exploser parce qu'il y avait un seul fabricant de robots qui était Intuitive Surgical aux États-Unis. Maintenant, tout d'un coup, les dernières années, vous avez 110 compagnies de robotique. Vous avez au moins 5 nouvelles compagnies en Chine chaque année de robotique chirurgicale. Nous, on a publié nos premiers 100 malades opérés par le robot en 1998. Et à l'époque, tout le monde disait, ça c'est pour les journalistes, ça sert à quoi, pourquoi il faut un robot alors que le chirurgien a deux mains. Ben, le problème, c'est que il n'y a pas un chirurgien qui a les mêmes mains, il n'y a pas un chirurgien qui a la même connexion entre son cerveau et la main, il n'y a pas un chirurgien qui, par rapport à un autre, a la même dextérité.
Ce qu'on appelle le robot chirurgical, c'est en fait un télémanipulateur. Le chirurgien est sur une console. Théoriquement, il pourrait être à 3000 km, et ça a été fait justement par Maresco, justement, hein, entre New York et Strasbourg, c'est ça. Généralement, il est plutôt à 3 mètres dans la même salle d'opération à s'occuper de faire fonctionner ses bras. Alors, c'est pas un robot. Un robot devrait prendre des initiatives en fonction des capteurs qu'il a et des raisonnements qu'il a sur le dossier, etc., etc., etc. Mais ça reste à l'horizon. Peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est de la science-fiction.
Il y a 3% actuellement, 3% d'opérations mini-invasives dans le monde qui se font par robot. Ça va être 100%, on ne sait pas quand, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais pour l'instant, c'est quand même minime. Quand on parle à l'ingénieur, quand il parle de robotique, il dit non, ça c'est pas de la robotique, c'est une relation maître-esclave. Le chirurgien fait le geste, l'ordinateur améliore son geste avec 1000 signaux qu'il améliore en une seconde, mais c'est le chirurgien qui fait la totalité du geste. Donc c'est pas de la vraie robotique, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie assistée par ordinateur. Mais dans l'esprit de tout le monde, parce que c'est un robot, tout le monde appelle ça la chirurgie robotique.
En revanche, derrière le robot, il y a des hommes. Et il y a deux équipes, surtout, de chirurgiens. C'est-à-dire il y a quand même des gens qui sont obligés d'être à côté du patient pour aller mettre des bras qui vont plonger dedans. Mmh. Et puis, il y a le grand maître qui est sur sa console.
Alors, moi, je suis donc assis sur un tabouret qui est réglé à ma hauteur. J'ai des bras posés sur un espèce de petit bar avec plein de boutons et d'instruments.
Bertrand de la Tour.
De plein de boutons et de systèmes de réglage. Parce que donc c'est comme un orgue. J'ai un pied avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pédales. 7 pédales que j'actionne avec mes pieds, ce qui est nouveau en chirurgie. Et j'ai les mains qui sont dans une espèce de joystick où on met le pouce et l'index. Et ensuite on contrôle et on télécommande les instruments avec des degrés de liberté qui sont intéressants. Vous voyez, une main, ça fait de la pronation à la supination, on fait 360 degrés. Le robot, là, quand on regarde le crochet, il fait 520 degrés. Parce que je peux tourner une fois et demie, quoi. C'est des mouvements qui sont augmentés. Alors, c'est un geste différent. D'abord, on est formé pour ça. Et puis, c'est plus du tout la même gestuelle, les mêmes instruments. Mais je dirais, un chirurgien, il franchit les étapes pas à pas. Il acquiert différentes voies d'abord. La chirurgie mini-invasive, la chirurgie robotique, la chirurgie ouverte, c'est toutes ces étapes qui sont importantes dans son formation. C'est pour ça que le temps de maturation d'un chirurgien, c'est souvent 8, 10, 15, parfois 17 ans, quoi. Donc, en termes de gestuelle, vous voyez, on a une vision qui est magnifiée et une gestuelle qui est très très précise à quelques millimètres, quoi. Et en plus, la machine, j'ai la chance de ne pas trembler encore. Peut-être qu'un jour je tremblerai, mais pour l'instant, la machine en plus corrige les tremblements s'il y a tremblement, quoi. On est posé, on fait une chirurgie, je dirais, presque microscopique. C'est la chirurgie macroscopique avec une technique microscopique. Alors, au début, je n'étais pas du tout partisan. Même en 2010, quand le robot est arrivé, je disais oui, je pense que c'est très bien pour les urologues. Et en fait, en observant ce qui se passait dans les publications, en observant ce qui se passait chez les collègues, et en allant voir, je dis il faut essayer. Et je pense qu'avant de critiquer une technique, il faut essayer une technique. Et en l'essayant, mais j'avoue que j'ai, J'ai compris les intérêts de cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est les jeunes. Moi, j'aime beaucoup transmettre à mes jeunes. Et alors, là, mes jeunes me disent, mais pourquoi on ne le fait pas en robot? Les jeunes nous poussent encore plus. Ils voient le bénéfice en termes de confort du geste, qualité du geste. Et je ne suis pas du tout ambidextre en chirurgie ouverte ni en chirurgie vidéo. Et en chirurgie robotique, je le deviens. Alors, je ne deviens pas excellent, c'est que la machine me le permet. La machine me permet d'être ambidextre. Donc, le robot, c'est vraiment le chirurgien augmenté. Donc, il faut être humble. Hein. Je pense que si on n'est pas humble, ce n'est pas un métier où il faut être. Sinon, on devient dangereux. Et ce n'est pas nous qui devenons excellents. C'est la machine qui nous permet de progresser dans la technique. Quoi. Donc, le fait de ne pas être à côté du patient, c'est un souci. Mais c'est réglé par le bénéfice du robot. C'est-à-dire qu'on a une image qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Microscopique, j'ai l'impression d'avoir un microscope dans le thorax et un geste qui est beaucoup plus précis. Oui, alors avec les pieds, je contrôle ma caméra, ma lumière, la force de mes instruments, la forme et la coagulation. Quand je coagule, je suis obligé d'appuyer sur le pied. Pour sectionner, j'appuie sur le pied, et je sectionne ou je coagule avec le pied. Non, c'est devenu un orgue, hein. On a quatre pattes, deux pattes arrière, deux pattes avant, il faut travailler avec les quatre pattes.
Jacques Maresco.
Là, il est en train de disséquer, donc si vous voulez, ce qu'on appelle une dissection, c'est-à-dire que avant d'arriver sur une artère que vous devez, par exemple, lier ou contrôler, vous avez ce qu'on appelle du péritoine, c'est-à-dire beaucoup de superficie. Vous devez disséquer chaque couche, qu'on appelle être dans le bon plan chirurgical. Et quand vous êtes dans le bon plan chirurgical, apparaît la structure noble que vous devez soit conserver, soit lier. Et vous voyez que tous les gestes qu'il fait, bon là vous ne le voyez pas bien parce que vous n'avez pas des lunettes, mais si vous prenez des lunettes de minute, vous prenez des lunettes et vous vous mettez pile au milieu, ouais. Sinon vous ne verrez pas. Mais si vous vous mettez pile au milieu avec des lunettes, bon, vous voyez qu'il a cette notion de profondeur, vous avez l'impression, puisque nous on a toujours, nos yeux on travaille en 3D. Là avec le robot, comme la caméra est fixe, vous pouvez travailler en 3 dimensions. Vous voyez qu'avec son index et l'index du côté de l'eau, il arrive à la fois à mobiliser l'instrument. C'est pour ça qu'on dit que l'instrument est intelligent, puisqu'il a des degrés de liberté que normalement un instrument n'a pas. Et puis ensuite, il arrive à mobiliser par ses doigts, il ferme, il ouvre la pince, ou si c'est la pince ou le ciseau. Et ensuite, il a de multiples pédales. Pourquoi ? Parce que vous avez actuellement ce qu'on appelle des équipements énergétiques intelligents, c'est-à-dire que quand vous voyez une artère, avant il fallait aller la suturer, etc., ça prenait du temps. Là, vous avez des systèmes intelligents. C'est-à-dire, ça s'appelle par exemple ligature, c'est-à-dire que vous fermez une pince et l'ordinateur immédiatement va vous dire quand le collagène de l'artère a fondu, c'est-à-dire quand vous pouvez couper et il n'y a aucune crainte, ça ne va plus saigner. En plus, il devient ambidextre.
Là, il est à combien ? 3 mètres du
là,
corps ?
Il est à 3 mètres et il est relié en fibre optique. Mais avant, les robots étaient reliés en câble. Quand nous, on a fait l'opération à distance New York-Strasbourg, on a dû faire un robot spécial avec l'Université de Californie et avec la boîte qui s'appelait Computer Motion pour faire pour la première fois une connexion par fibre optique, puisque par câble, on n'avait pas fait un câble qui faisait 14 000 km aller-retour.
Mais ça n'a plus rien à voir avec le geste du chirurgien qui, lui, est séculaire.
Oui et non, c'est-à-dire que le cerveau fait le même geste. Par contre, là où vous avez raison, c'est que ça n'a rien à voir avec le ciseau, la pincette que moi j'ai connu au début, puisque j'ai connu toute l'évolution de cette technologie.
Et le toucher, surtout le toucher des organes.
Oui, mais le toucher, surtout avec le 3D, quand vous avez de la haute définition et du 3D, vous n'avez vraiment plus besoin du toucher. Le fait est que
il y a des informations qui passaient par les mains quand même, non ? Pour le chirurgien.
Elles passent par les yeux et par le cerveau. Alors ça, c'est vraiment, j'en suis convaincu pour 90%, 95% des chirurgiens. C'est-à-dire que, et ça va être de plus en plus. Mais vous pouvez, il y a plein de prototypes où vous avez maintenant ce qu'on appelle le retour de force. Hein. Mais là, quand vous demandez aux chirurgiens... Oui, vous avez la sensibilité, mais les chirurgiens disent qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'il y a eu tellement de progrès dans la caméra et dans la 3 dimensions que vous n'avez plus besoin de toucher.
Moi, je suis un vieux, c'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé le robot chirurgical, pour tout vous dire.
Alain-Charles Masquelet.
Mais je me souviens Dans l'Anthropologie du point de vue pragmatique, qui est une œuvre majeure de Kant, qui est assez méconnue, il dit « le toucher est absolument essentiel parce que c'est le sens qui nous donne la perception la plus immédiate avec certitude, bien qu'étant le plus grossier. » Et on dit souvent que, par exemple, la pulpe des doigts, c'est l'œil du cerveau, en quelque sorte. Donc, le toucher est incomparable. Je crois que les chirurgiens qui se sont spécialisés dans la pratique robotique ont développé, je dirais presque, un sixième sens. Et ça, c'est dû à la plasticité incroyable du cerveau. Le toucher clinique s'est retiré avec l'avènement de toutes les investigations comme l'imagerie, l'IRM, le scanner, enfin, etc. Moi, je ne vois jamais un médecin, actuellement, un jeune médecin, examiner un malade, palper un ventre, examiner une articulation, etc. Donc, on a perdu le sens du toucher. Alors, de là à penser qu'un jour, on aura une atrophie de la main, il n'y a pas loin, hein, si on veut se projeter.
On a tous des secteurs et des champs d'activité. La chirurgie mini-invasive et robotique, pour le moment, en tout cas, n'est pas la mienne. Si ça se démocratise vraiment et que dans 10 ans, tout le monde fait du robot et qu'il y a des robots dans toutes les salles d'opération et que ça devient la norme, ben je m'y mettrai, bien sûr.
Erwan Fleischer, chirurgien cardiaque.
On est aux prémices, au balbutiement d'une niche, de quelque chose de confidentiel en chirurgie cardiaque. Attention, hein, dans ma spécialité. Donc, certains chirurgiens de l'équipe vont le démarrer. Et après, il y a l'appétence qu'on a pour ce type de chirurgie qui requiert encore certaines qualités chirurgicales. Il faut de la patience pour travailler avec des baguettes ou le robot, du calme, etc. Peut-être que c'est vrai que j'ai une appétence, moi, plus pour l'instant en tout cas, pour le contact direct, j'ai envie de dire presque charnel, un peu ancien, vieux jeu peut-être, mais de mettre les mains dans le thorax, de manipuler les choses avec mes doigts, avec mes mains, ce contact, il m'est cher, quoi. Quand on a la main sur le cœur du malade, entre guillemets, etc., ce contact, on sent le chaud, le froid. J'ai un peu peur, c'est peut-être puéril ou idiot ce que je vais dire, mais j'ai un peu peur qu'on devienne un peu des spécialistes ou des ingénieurs en santé à manipuler des tablettes et qu'on perde un peu ce contact, ce lien qu'on a avec le patient quand on, voilà. Ce qui est peut-être faux, parce qu'encore une fois, on va me dire, mais la chirurgie, c'est pas que opérer, c'est aussi le contact que tu as avec le patient avant l'opération, le contact que tu as avec le patient après l'opération, ça ne change pas la relation médecin-malade. Je ne sais pas, j'en suis pas complètement sûr, en tout cas. J'en suis pas complètement sûr. Et ce contact, cette relation particulière qu'il y a entre le chirurgien et son patient, est-ce qu'il n'est pas plus fort lorsqu'entre guillemets il y a une grande incision, une grande balafre et qu'on sait qu'il a mis les mains dedans plutôt que lorsque c'est un peu virtuel, on a trois petits trous, trois petits pansements et il paraît que quelqu'un a mis les mains dedans. Je ne sais pas. En même temps, il ne faut pas souhaiter aux malades des grandes incisions si on peut faire des plus petites incisions, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, peut-être que ça joue dans l'imaginaire ou dans la place que peut avoir le chirurgien dans la société et à l'hôpital, quoi.
Au départ, donc quand vous parliez des débuts du robot, quelles ont été vraiment les spécialités qui s'en sont le plus servies? Et aujourd'hui, où on en est? Est-ce qu'il y a vraiment des spécialités qui ne peuvent pas encore être pratiquées par le robot?
Alors, c'est une bonne question, parce que ça a commencé de façon paradoxale par la chirurgie cardiaque. Et en fait, c'était bizarre, c'était de la chirurgie cardiaque, on pensait faire des sutures au niveau cardiaque, etc. Mais le gros problème, c'est qu'il y a eu des complications, parce que le chirurgien cardiaque n'opère que le cœur, c'est sa définition. Et donc, ça a été abandonné très vite. C'est en train de revenir, parce que les robots se sont améliorés, mais c'est en train de revenir. Et ça s'est développé énormément en chirurgie urologique, donc tout ce qui était prostatectomie, pour la bonne raison que c'est extrêmement difficile d'enlever une prostate en chirurgie mini-invasive classique. Et ensuite, en chirurgie digestive, ça s'est énormément développé. Pourquoi ? Parce qu'en chirurgie digestive, vous avez toutes les interventions dont la complexité augmente. Donc vous pouvez commencer par ablation d'une vésicule biliaire, traitement d'une hernie inguinale, résection d'un petit morceau d'intestin grêle, puis un cancer du côlon, colon, puis progressivement un cancer du rectum, etc. Donc progressivement, vous arriviez à échelonner la difficulté, ce qui n'était pas le cas de la chirurgie cardiaque. Et actuellement, de façon paradoxale, alors qu'on n'avait pas imaginé au départ, l'une des meilleures indications de la chirurgie robotique, mini-invasive, intégrant l'image, c'est la chirurgie du thorax, parce que les chirurgiens thoraciques avaient énormément de difficultés à faire des ablations partielles du poumon, et donc très souvent c'était ce qu'on appelle un lobe complet qui partait, et là encore la France a été à l'avant-garde. Il y a eu le professeur Gossot à Paris qui a été un des pionniers en chirurgie thoracique, mini-invasive, ensuite robotique, etc. Donc voilà, donc les chirurgies actuellement les plus développées, c'est l'urologie, de loin, parce que quasiment toutes les prostatectomies sont faites avec le robot. En numéro 2, la chirurgie digestive, quand même, par le volume. Et en numéro 3, la chirurgie thoracique, parce qu'ils en ont réellement besoin.
Et est-ce qu'il y a vraiment eu un plus qui a été apporté par le robot? Il y a un type une spécialité, la neurochirurgie ou le foie, en fait, des choses qui étaient difficiles avant et qui ont été facilitées.
Bon, c'est un bon exemple quand vous posez la question sur des spécialités où c'était quasiment impossible de le faire en chirurgie mini-invasive. Bah, typiquement, c'est la neurochirurgie par voie nasale. Parce qu'aller opérer des tumeurs du cerveau par voie nasale, si vous n'avez pas des petits instruments, vous n'avez pas une petite optique, une caméra de très bonne qualité, vous ne pouviez pas le faire.
Les tumeurs qui étaient d'accès très difficiles en chirurgie traditionnelle. Je prends l'exemple des tumeurs de l'oropharynx, la gorge là derrière. Avant l'arrivée du robot, on était obligé de faire une opération très délabrante, c'est-à-dire de fendre le maxillaire en deux, de fendre la langue en deux, d'ouvrir carrément la face en deux, de façon à pouvoir accéder à la tumeur. Maintenant, le robot, ça se passe par la bouche. C'est-à-dire, on insinue quatre bras du robot à l'intérieur de la cavité buccale et le robot enlève la tumeur. Là, c'est quand même un progrès inouï. Alors, ça a commencé, le robot, ça a commencé en gynéco, mais ça a commencé aussi en urologie. Et les urologues sont en train de revenir un petit peu sur cette question du robot, parce qu'il y a eu des études qui montraient que, indiscutablement, il y avait une amélioration du confort et de la précision du chirurgien, mais l'avantage pour le malade n'était pas aussi évident que cela. Et on manque actuellement d'études comparatives, disons en double aveugle, si vous voulez, entre des patients opérés par chirurgie traditionnelle et des patients opérés par robot. En traumatologie, en urgence, est-ce qu'on peut imaginer un patient opéré par un robot? Non. Parce que c'est chaque fois une situation inédite, singulière. Et le robot, même si on le couple avec l'intelligence artificielle et donc avec le deep learning, vous savez, l'auto-apprentissage, il y a des choses que le robot ne pourra pas faire. Par exemple, tirer parti d'une variation anatomique que le chirurgien expérimenté peut tirer profit dans le sens du bénéfice du malade. En urgence, moi, je ne vois pas d'indication à un robot. Le robot ne peut s'appliquer qu'à une chirurgie très standardisée. Et encore, vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, ils se sont aperçus que, de temps en temps, il fallait, comme ils disent, convertir. C'est-à-dire, on part avec le robot, ou on part avec la cœlioscopie, ou on part avec une arthroscopie, puis à un moment donné, on est acculé, soit par une complication, soit parce qu'on ne peut pas faire le geste, et à ce moment-là, on convertit, c'est-à-dire on fait une chirurgie traditionnelle. Seulement, la formation des jeunes chirurgiens actuellement est accentuée sur l'apprentissage du robot pour un certain nombre d'entre eux. Mais aux États-Unis, ils se sont aperçus que les jeunes ne pouvaient plus faire de la chirurgie traditionnelle parce qu'ils n'étaient pas assez formés. Et donc, dans une opération relativement importante, il y a une deuxième équipe qui attend derrière, qui est prête à intervenir, une équipe de chirurgiens expérimentés, traditionnels, vieux en quelque sorte, qui est prêt à prendre le relais. C'est quand même d'une certaine façon assez insensé, quoi.
C'est terrible ce que je vous dis, parce que c'est lourd de conséquences, mais pour moi, c'est irréversible. Alors, oui, à Rennes, malheureusement, on n'a pas un grand accès aux robots. Ce que j'espère, c'est qu'on va acquérir peut-être un deuxième robot en chirurgie thoracique, et j'espère cette année ou l'année prochaine. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça représente à peu près 15% de notre activité, alors que si on avait un robot, on pourrait faire 60-70% en chirurgie robotique. On a encore des problèmes d'accès aux robots, et ça, c'est clair. Ça se comble tout doucement en France, mais on a un problème d'accès aux robots. La chirurgie ouverte, c'est une peau de chagrin. Une peau de chagrin de Balzac, elle va disparaître tout doucement. Est-ce qu'il en restera toujours un peu? Est-ce qu'il va rester 10%, 15%, 3%, 7%? Il en restera, hein. Il faudra la faire. Mais la chirurgie ouverte, oui, on va de moins en moins mutiler les patients. Et tant mieux! Et tant mieux! Là, vous m'embrayez sur un sujet qui est passionnant, c'est la perte de savoir-faire. Est-ce qu'il y aura une perte de savoir-faire? Mais il faut qu'on reste vigilant, parce que ça peut arriver. On est des artisans de luxe, hein, donc qui dit artisanat dit savoir-faire. Tout n'est pas dans les bouquins, tout n'est pas assez transformé aussi de façon orale, par compagnonnage, avec la noblesse du compagnonnage. Et il faut qu'on soit vigilant pour ne pas perdre le savoir-faire. Vous savez qu'en 2050, la première cause de mortalité, ce seront les infections. Ce ne seront pas les infarctus, ce ne sera pas le cœur, ce ne sera pas le cancer, ce seront les infections. On a de plus en plus de maladies résistantes antibiotiques. Là, j'ai lancé un travail avec des jeunes sur la tuberculose multirésistante. Quand j'ai commencé la chirurgie thoracique, je ne voyais plus de chirurgie de tuberculose. Là, cette année, j'en ai fait 4. Donc, c'est une chirurgie qui va augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replonger dans les livres des années 50, voir comment nos collègues utilisaient la tuberculose. Et voilà. Donc, il faut éviter de perdre de savoir-faire. Il faut à la fois avancer, faire de la chirurgie robotique, et en même temps, garder le savoir-faire. Un petit peu nostalgique, s'il vous plaît.
Je compare ça à l'aéronautique. Tout le monde a critiqué, vous vous souvenez, quand les pilotes ont dit « Non, c'est pas possible, on doit être 3 dans la cabine, etc. » Ensuite, ils n'ont été plus que 2, ils pourraient être tout seuls. Et on sait très bien qu'ils peuvent très bien ne rien faire. Le décollage, il est automatique, le vol, il est automatique, et l'atterrissage est automatique. Et de façon exceptionnelle, le pilote doit reprendre, ou parce qu'il a envie de faire l'atterrissage, il va le faire lui-même. Mais tout est fait automatiquement. Ça sera la même évolution. Et si, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous arrivez à faire l'opération sur le clone virtuel, digital du malade, c'est-à-dire le faux malade, à partir des données médicales, parce que vous l'aurez reconstruit en 3 dimensions, et là, vous aurez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, vous pourrez refaire l'opération 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis tout d'un coup, vous avez l'opération parfaite, et là, vous allez donner toutes ces informations au robot, et le robot va faire l'intervention parfaite. Il y avait une image, quand on a publié la première fois ce concept, il y avait le chairman de Stanford qui avait fait un éditorial en disant ce qu'ils font à Strasbourg et ce qu'ils imaginent pour la chirurgie du futur. C'est comme un metteur en scène, c'est-à-dire que vous faites une scène, elle est bonne, vous la gardez, elle n'est pas bonne, vous l'achetez, vous la refaites. Et puis une autre scène, une deuxième, une troisième. Puis vous les mettez bout à bout et à la fin, vous avez le film idéal. Ben, eux, à la fin, ils auront la chirurgie idéale. C'est exactement le même principe.
Beaucoup parlent justement dans la recherche d'aller plutôt vers de la co-manipulation, c'est-à-dire qu'il y ait toujours une présence humaine, parce que le robot n'est pas infaillible non plus.
Alors là, c'est évident que si vous me posez la question, quand est-ce que le robot sera sans aucune supervision humaine, ça c'est sûrement pas demain, c'est une évidence. C'est comme pour l'instant, vous n'avez quand même aucun avion, alors qu'il pourrait se passer de pilote, où il n'y a pas de pilote, il y en a même 2. C'est-à-dire qu'il aura à tout moment possibilité d'arrêter, de reprendre lui-même l'intervention, etc.
Moi, je ne pense pas qu'on y arrive à mettre une machine qui pilote un avion sans humain. Mais oui, ça va être je suis d'accord avec cette définition. Ça va être une co-manipulation. Le robot, elle aura d'autonomie. Et puis, le chirurgien sera là pour reprendre la main à tout moment et pour analyser la situation. Je pense que c'est prétentieux de dire qu'on a toutes les variables de l'équation. Moi, je n'y crois pas qu'on ait toutes les variables de l'équation. Quand on dit qu'on aura l'automatisation totale, ça, toutes les variables, tout ce qui peut être imaginé aura été... Et en fait, il y a toujours un aléa, il y a toujours une variable, une fragilité, un patient qui est sous corticoïde, un patient qui est inflammatoire, un patient qui a eu une immunité différente, un patient qui a eu tel traitement, un patient qui a eu telle alimentation. On ne maîtrise pas tout. Hein. Est-ce que l'homme peut devenir Dieu? J'y crois pas du tout. Ouais, on va nettoyer l'optique. Allez-y, nettoyez l'optique. Allez dans la Bible, hein, c'est la tour de Babel. Hein. Est-ce que l'homme peut rejoindre Dieu? On a construit la tour de Babel. Et est-ce qu'on peut être comme Dieu grâce à notre technique et notre intelligence? Moi, je crois que non. S'il y a des hommes qui croient que la technique nous rendra comme Dieu, mais moi, ma réponse est non. La Bible a répondu non, mais peut-être que des gens plus intelligents que moi pensent que oui. Mais il faut qu'ils me le démontrent. Quoi.
Il y a peut-être
Moi, je suis qu'un petit artisan de Bretagne. Heureux d'avoir un robot, une équipe fantastique, des e-bots qui sont impliqués, des anesthésistes rigoureux. Voilà, voilà. Mais non, le chirurgien, il faut, au niveau médico-légal, il faut un responsable. Donc le chirurgien sera sur le plan du procès, sur le plan médico-légal, ce sera le chirurgien qui sera responsable. Ce ne sera jamais la firme ou la machine qui sera responsable. Vous voyez ce que je veux dire ? Le patient, il veut un coupable, il veut un payeur. Ce sera le chirurgien. Ce qui est certain, c'est que je pense que les patients préféreront être choisis et être soignés par un humain imparfait plutôt que par une machine parfaite. D'abord parce que la machine parfaite n'existe pas. Hein. Les fusées Ariane, les avions, tout ça nous montrent que la machine parfaite n'existe pas. Hein. Voilà, donc maintenant on va redocker. Voilà, ouais. D'abord je retire la caméra. On va tourner le robot. Tout peut tomber en panne. C'est pour ça que en disant le robot va devenir totalement autonome, c'est illusoire. C'est illusoire. Est-ce qu'un chirurgien tombe en panne ? Non. Alors, il me dirait si, il peut faire un infarctus, etc., mais il y a toujours une équipe. Donc faut le confier ça à une équipe et non pas à une machine.
Rotation.
Rotation. Ça, je peux le faire. Ouais, voilà la tête. Et la croix, vous la mettez ici, s'il vous plaît. Encore. Là. Encore. Ouais, c'est pas mal. Descendez un petit peu. Descendez un petit. Ouais. Vers moi. Parfait. Voilà. Donc dernière position du robot et on finit d'enlever le thymus. Après, on le mettra dans un petit sac et il sortira par la xiphoïde. Donc on n'a pas besoin d'écarter les côtes. C'est une voie d'abord qui permet d'avoir moins de douleur et de se remettre plus vite de l'intervention.
On sait qu'actuellement, techniquement, il n'y a quasiment plus de limites. C'est-à-dire que quasiment toutes les opérations sont faisables avec cette nouvelle technologie. Le problème, il est un problème qu'on évoquait aussi, qui était le problème du coût-efficacité. C'est extrêmement difficile en France d'avoir une analyse macroéconomique, c'est-à-dire très difficile de voir quel est l'impact économique d'une technique qui vaut plus cher. Le problème, c'est quoi les paramètres qui sont étudiés actuellement? Quand vous avez une publication médicale ou chirurgicale, le résultat, c'est le plus important, c'est mortalité à 30 jours. Ce qui est stupide, c'est-à-dire que vous mourrez au 31e jour, c'est un succès de la chirurgie. Mais c'est comme ça, c'est une référence mondiale. Et puis on a ce qu'on appelle la morbidité. En fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver, et on arrive à le faire, on l'a fait beaucoup avec une filiale de Medtronic qui s'appelle Integration Health System, c'est développer des algorithmes qui permettent de voir quel est l'impact justement de cette chirurgie mini-invasive robotique sur le retour du malade au travail, parce que c'est ça qui est important. Si par une technique qui vaut un peu plus cher, le malade retourne au travail à 8 jours ou 10 jours et non pas à 2 mois, vous avez tout gagné, vous avez remboursé votre robot, je vous dis, peut-être en 15 jours. Et ça, par contre, ce n'est pas une critique vis-à-vis de la France, mais je pense que dans la majorité des pays, vous n'avez pas ces paramètres. Vous n'avez pas ces paramètres aux États-Unis non plus. Or, c'est quelque chose qui est possible maintenant, notamment avec l'intelligence artificielle et le développement d'algorithmes. On l'a fait sur plus de 500 malades. On arrive à les suivre jusqu'au retour au travail.
Il faut quand même savoir que le Da Vinci a été commercialisé alors qu'il n'y avait pas d'études randomisées permettant de savoir si c'était vraiment le bien du patient.
Marie-Christine Pouchet.
C'est un peu ce qui s'est passé avec les vaccins d'ailleurs. On n'a pas le temps, en termes commerciaux et financiers, de valider les innovations parce qu'il y a les prises de brevets, etc. Et en même temps, la fascination exercée par le robot sur les chirurgiens eux-mêmes et quelquefois sur les patients fait que, au départ, avant le Da Vinci, il y en a eu un autre et qu'on avait appelé quand même Zeus. Pas rien. Da Vinci, c'est aussi un grand, mais le Zeus, c'était encore mieux. Et ça rappelle la devinette bien connue outre-Atlantique, comme ici, de la devinette que les anesthésistes adorent raconter. Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien ? Eh bien, c'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien.
On a dit aux grands chirurgiens les grandes incisions. Ça, c'était vrai au 19e siècle. C'était vrai pour la première partie du 20e siècle. Et c'était vrai jusque dans les années 70.
Alain-Charles Masquelet.
Mais on a des mini-incisions maintenant. C'est-à-dire, il y a une chirurgie traditionnelle qui se fait par des incisions très courtes. Tout est en évolution. Il ne faut pas penser que d'un côté, il y a la chirurgie traditionnelle qui resterait figée. Et de l'autre côté, une chirurgie hyper technologique qu'on attendrait comme le Messie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est trop caricatural. Il faut savoir quand même que la chirurgie traditionnelle a fait beaucoup de progrès aussi. On tient mieux compte des petits nerfs sensitifs de la peau, on fait attention au tracé des incisions de façon à ne pas avoir de nécrose, c'est-à-dire d'ennuis vasculaires. Même la chirurgie traditionnelle a fait beaucoup de progrès. Mais ça reste un peu méconnu et s'est effacé au profit de l'hyper-technologisation de la chirurgie. Prenez une opération très simple, la lux valgus. Vous savez ce que c'est que la lux valgus, le gros orteil qui est de travers. Autrefois, dans les années 70, c'était 5 jours d'hospitalisation. 5 jours. À présent, ça se fait en ambulatoire. Il n'y a pas besoin de robots pour ça.
Le chirurgien va avoir de plus en plus de temps à avoir ce fameux colloque singulier avec le malade. Il va avoir le plus de temps parce que la technologie, elle va être énormément faite par la machine. Et donc, c'est l'inverse. Avec la relation entre le chirurgien et le malade va être beaucoup plus humaniste qu'elle ne l'était. C'est-à-dire que je suis convaincu que l'apport des nouvelles technologies, notamment automatiques et d'intelligence artificielle, vont permettre un rapprochement phénoménal et une discussion bien plus positive entre le malade et le chirurgien, parce que le malade, justement, parce qu'il aura accès à toutes ces données d'intelligence artificielle, le chirurgien ou le médecin, il ne va plus pouvoir considérer le malade comme étant quelqu'un qui n'y connaît rien.
Vous
non
êtes optimiste,
oui. Moi je suis complètement optimiste là-dessus. Je m'ai persuadé que ça va transformer, et je sais aussi par expérience, parce que j'ai connu des milliers et des milliers de malades, que l'une des choses les plus importantes dans le rapport entre le malade et le chirurgien, c'est la manière dont vous le regardez, c'est la discussion que vous avez, c'est la manière de lui expliquer sa maladie. Et ça, c'est pas la technologie qui va le faire, donc ça va rien changer. Donc c'est pour ça que moi je répète que toutes ces nouvelles technologies, c'est l'inverse. Il va y avoir un côté humain nettement supérieur à ce qui existe actuellement.
Mais on voit poindre, notamment avec le robot, un réenchantement de la chirurgie, surtout de la part des jeunes générations qui n'ont pas connu l'ancienne chirurgie. Et ce réenchantement, il est dû à un phénomène dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui est la fascination technologique. Les jeunes chirurgiens sont très intéressés, non pas tellement par le malade, ni par la pathologie, ni par la clinique, ni par... Non, c'est la technologie. Pour le bien-être du malade, moi je crois beaucoup au contact, au toucher, à la décision médicale partagée. Parce que j'ai lu que Maresco disait ça laissera du temps pour mieux s'occuper du malade. En fait, non. Moi, je m'aperçois chez les jeunes que ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, en consultation, ils sont planqués derrière l'écran. Et en salle d'opération, après le geste opératoire technique est d'autant mieux ressenti qu'il a utilisé beaucoup de technologies, le malade importe peu. Et c'est ça qui navre les vieux chirurgiens que nous sommes. Donc, réenchantement technique, mais désenchantement du soin. Le soin, c'est la prise en charge avant et après l'intervention.
Ce qui est sûr, c'est que le chirurgien de demain, il ne doit pas être qu'un technicien. En tout cas, c'est mon point de vue. Un chirurgien, c'est pas un technicien.
Erwan Fleischer.
La chirurgie, ce n'est pas que le bloc opératoire. Loin de là. La chirurgie, c'est créer un climat de confiance et un contrat, entre guillemets, entre le patient et son chirurgien. Mais c'est aussi et surtout gérer les suites opératoires, les complications. C'est savoir connaître les indications opératoires, qui opérer, qui ne pas opérer. C'est travailler dans une équipe. C'est ça, le chirurgien de demain. La chirurgie, ce n'est pas que le bloc opératoire. La chirurgie, c'est aussi un état d'esprit, c'est un engagement. C'est pas que faire des nœuds avec les doigts. Ou avec le robot.
Et si on se projette comme ça, parce qu'on en parlait avec Jacques Maresco, disait que ça laissera du coup plus de temps à l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne partage pas forcément son point de vue. J'espère qu'il a raison, mais je n'en suis pas sûr. Moi, mon impression est quand même que la clinique, examiner les malades, faire la visite au lit du malade... c'est pas forcément ce qui attire maintenant les plus jeunes ou les jeunes générations. qui sont très attirés par les dispositifs médicaux, implanter le numérique. Enfin, ces nouvelles technologies hein, qui sont passionnantes. J'espère me tromper, mais en tout cas, l'humain doit rester au centre du soin, quel qu'il soit, que ce soit de la cancérologie, de la chirurgie, de... Voilà, c'est pas anodin quand même que quelqu'un vous confie son corps, il va être endormi, il sera inconscient, il pourra pas être là pour vérifier ou pour s'exprimer, et vous allez fouiller avec un robot ou pas dans ses entrailles. L'humain doit rester au centre. Alors, est-ce que ces nouvelles technologies vont renforcer l'humain ? J'en suis pas certain, mais j'espère qu'il a raison, on verra.
Maintenant, il y a un culte de la vitesse chez les financiers et chez les commerciaux qui est que ce qui coûte cher à l'hôpital, c'est le facteur humain, c'est-à-dire le personnel, de ce qu'on appelle l'hôtellerie. Or, quand on fait miroiter au patient que c'est formidable, il va rester 2 jours à l'hôpital, il faut voir que c'est pas si simple que ça. Parce que si on renvoie les gens chez eux le soir même, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une médecine de proximité qui soit vraiment accessible au cas où il se passe quelque chose. Parce qu'il y a quand même quelquefois d'imprévu. Le corps ne réagit pas de la même façon. Et parce que, en plus, les gens, ce ne sont pas que des corps. Donc, en plus, une mère de 4 enfants, si on la renvoie chez elle tout de suite, après lui avoir enlevé la vésicule biliaire, elle préférerait peut-être rester à l'hôpital. Donc, vous voyez, il n'y a plus que l'aspect financier qui compte. Et là, c'est une évolution de nos systèmes de santé, et pas seulement de la chirurgie, qui est en cause. Et puis alors y compris qu'il y a les start-up et les entreprises qui poussent à la roue parce qu'il faut se dépêcher de déposer le brevet quoi avant le concurrent. Ça fait partie des effets pervers quand même.
Je voudrais ajouter une chose. Je crois que cette histoire, l'affaire du robot, participe d'une entreprise beaucoup plus générale parce qu'elle est vivement encouragée par les pouvoirs publics aussi. C'est-à-dire c'est le fantasme de pouvoir se passer de personnel. L'idéal pour un administratif, c'est d'avoir un hôpital entièrement automatisé. Ça date de Sarkozy, ça. C'est-à-dire un certain cercle d'énarques avait décidé qu'il fallait dépasser le stade artisanal de la médecine. Ben, c'est examiner un patient, c'est le colloque singulier, c'est travailler avec ses mains, enfin, etc. Pour passer à un stade industriel qui permettait de faire des économies. Et ça, c'était très prégnant dans le cerveau de nos élites. Hein. Donc, l'histoire du robot... Ça participe du même tabac, en quelque sorte. Hein. Un fantasme.
Il est quelle heure, là, exactement ? Allez, dans 43 minutes, on a fini. Vous pouvez mettre le chronomètre, s'il vous plaît ? On mettra un petit drain 24 au milieu qui partira ce soir. Comme ça, il n'y aura plus de drain ce soir. Et du coup, si tout va bien, le malade sera dédrainé ce soir ou demain et il devrait sortir demain ou dimanche.
Et les informations que vous preniez, vous, en ayant les organes, les mains dans le thorax, par exemple, ou dans le corps, elles ne vous manquent pas en tant que thérapeute ?
Ah, si, ça me manque, mais en même temps, je suis tellement content de voir mes patients qui sont moins douloureux, qui sortent plus tôt. C'est une joie énorme. On perd une sensation, mais on a un bénéfice pour le malade qui nous donne d'autres joies. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est on perd une joie pour en avoir une plus grande. Et je pense que une des machines qui va nous apporter dans les 20 ans qui viennent, c'est qu'on arrivera avec un seul orifice minuscule à introduire 4 instruments différents, 3 ou 4 instruments différents, et à faire des gestes complexes avec un seul orifice, quoi. Donc l'avenir, c'est la miniaturisation du matériel qui nous permet, sans abîmer le patient, sans être mutilant pour le patient, de faire un geste thérapeutique. Il gêne, l'autre bras gêne, le 1. Le 1, il faut l'enlever complètement. Il faut faites le tour. Il me gêne, je peux pas.
Moi, mes mains, c'est vrai que je leur fais une confiance aveugle au bloc opératoire. Et c'est presque inconscient. Il y a plein de gestes où je ne sens. Voilà, c'est le prolongement de mon esprit, entre guillemets, ces mains. Elles agissent, elles volent un peu, elles se débrouillent un peu toutes seules. Et elles vont me mettre en garde. Voilà, on sent parfois si le tissu est trop fragile, attention, ça va déchirer. On sent, je dis souvent, parfois mieux qu'au scanner ou à l'IRM, si nos ciseaux ils vont passer ou s'ils vont pas passer. On a quand même des récepteurs sensoriels fins, au niveau de la pulpe des doigts et tout ça, ça s'éduque au fil des années, au fil des ans. Mais la gestuelle sera forcément très différente. On manipulera des joysticks, mais peut-être qu'il y aura aussi finalement un ressenti, des retours qui vont être mis en place avec des systèmes de logiciels. Peut-être qu'il y aura un développement pareil d'une gestuelle particulière de chirurgie robotique. Hein.
Le fait est que vous vous trouviez à 2 mètres du corps du patient, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la chirurgie.
Non. Ça, rien que géographiquement, je veux dire, dans la gestuelle de l'acte chirurgical, du théâtre opératoire, on n'est plus sur scène. Le chirurgien n'est plus sur scène. Il joue dans une pièce à côté, il est délocalisé. Et c'est vrai que ça ne s'est jamais produit. Le chirurgien était habillé, ganté, en casaque, drapé de son habit chirurgical, à côté, physiquement, debout, à côté de la table d'opération, les mains dans le malade. Puis il était toujours drapé, stérile, à côté du malade, mais il opérait ou il opère avec une petite cicatrice et des baguettes. Mais il y a encore un contact avec les malades via les baguettes et un ressenti direct sur les mains. Et actuellement, on passe progressivement, pour beaucoup de chirurgies, à un chirurgien qui est excentré, qui n'est d'abord plus habillé stérile. Il peut être dans la pièce à côté. Donc forcément, la position du chirurgien et l'image du chirurgien dans le bloc opératoire change de fait.
Et vous m'aviez dit d'ailleurs, notre beau prestige est en train de se faner. Erwan Fleischer.
J'ai dit ça, moi.
C'était la robotisation du chirurgien avec Erwan Fleischer, chirurgien cardiaque au CHU de Rennes, Bertrand Delatour, chirurgien thoracique et cardiovasculaire au CHU de Rennes, Alain-Charles Masquelet, chirurgien orthopédique, Jacques Maresco, président et fondateur de l'IRCAD, et Marie-Christine Pouchel, anthropologue. Prise de son, Alexandra Bergel. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.